Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la littérature.
Première émission littérature de la saison avec Eric Loret, que je suis ravi de retrouver, et Elisabeth Philippe, que je suis ravi d'accueillir pour la première fois dans cette émission. À notre sommaire, ce soir, Le Grand Jeu de Céline Minard, paru chez Rivage, et Bleu, Blanc, Noir de Karim Amelal, aux éditions de l'Aube. Nous évoquerons aussi plus rapidement Crépuscule du Tourment d'Eleonora Miano chez Grasset et Le Sanglier de Myriam Chirous chez Buchet-Chastel. Au cours de cette émission, comme chaque soir, désormais vers 21h20, Lucille Comeau nous invitera à débattre autour d'une question liée à l'actualité culturelle. Ce sera dans le Petit Salon. Bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Eva ne dort pas de Pablo Agüero, distribué par Pyramide. Et nous ouvrons cette émission avec le retour de Céline Minard, une écrivain que j'affectionne tout particulièrement depuis ses débuts, même si je n'ai pas aimé tous ses livres avec la même intensité, mais j'ai toujours aimé la façon qu'elle a de remettre son écriture en jeu à chaque fois, en creusant un sillon vraiment singulier. Céline Minard a enfin connu une médiatisation plus grande avec son précédent roman, Faillir être flingué. Elle n'aime pas qu'on dise que c'est un western, on va dire western métaphysique et déjanté, lauréate du prix Livre Inter notamment. Elle revient avec encore une fois le plein de questions existentielles dans Le Grand Jeu. Je vous lis le début de la quatrième de couverture qui dit ceci. Installé et eux dans un refuge high-tech accroché à une paroi d'un massif montagneux, une femme s'isole de ses semblables pour tenter de répondre à une question simple, de point, comment vivre. Les cinq hommes sont repartis avant que le soleil ne passe derrière la montagne. Le pilote préfère éviter les vols de nuit et les huit voyages qu'il a effectués aujourd'hui avec ses longues minutes de stationnaire précis ont requis suffisamment de son attention pour qu'il ait envie de se détendre dans la vallée. Les quatre techniciens étaient dans cet état de fatigue euphorique que procure le travail accompli. Ils ne pensaient qu'à redescendre, prendre un peu de repos, retrouver leur foyer. De mon côté, je n'aurais pas apprécié outre mesure de devoir leur offrir l'hospitalité et peut-être l'ont-ils senti, ce qui est sans importance. J'ai confié au pilote l'ultime paiement, en espèces, qui met un terme à mon projet qui n'en est plus un, puisqu'ils m'ont aidé à le réaliser. Ils n'auront pas à revenir pour raccorder les panneaux photovoltaïques aux batteries, je le ferai moi-même, pour l'ensemble de la structure et pour le module sanitaire installé quelques dizaines de mètres plus bas. Quand le bruit de l'hélicoptère a été absorbé par la distance, j'ai senti l'épaisseur de l'air et j'ai pu voir le tube de vie dans lequel je vais désormais m'abriter et passer mes jours, si ce n'est mes journées. C'est ainsi que débute Le Grand Jeu, récit à la première personne, constamment émaillé. On va en parler de questionnements, mais aussi d'aphorismes. Mais vous avez bien sûr, Eric Loret, reconnu la musique que nous venons d'entendre. Non, en fait, c'est Elisabeth Philippe qui l'a reconnu. C'est Pression pour violoncelle d'Helmut Lachmann, qui est la seule musique expressément citée dans le livre de Céline Minard au moment où la narratrice dans son habitacle, va jouer ce morceau pour son ami, ou pas, ennemi, la nature, ou ce qu'il y a dedans. Elisabeth Philippe, qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ce livre à notre dispute, ce dont je me réjouis personnellement, vous l'avez compris.
Alors déjà, comme vous Arnaud, moi, c'est, Céline Minard est une romancière dont j'aime l'œuvre. C'est une romancière qui se distingue par sa façon de jouer avec les genres littéraires. Donc vous l'avez rappelé, Faillir être flingué, son précédent roman, jouait avec les codes du western. On peut aussi évoquer Bastard Battle qui reprenait les codes de la chanson de geste. Le Dernier Monde, qui est certainement le roman qu'il a fait connaître d'un public un peu plus conséquent, s'inscrivait plutôt dans le domaine de la science-fiction et abordait des thèmes qu'on retrouve dans le grand jeu, puisqu'il était question du dernier survivant de l'espèce humaine. Et il est vrai que le grand jeu, il y a aussi une dimension presque post-apocalyptique. En tout cas, la narratrice, on sait très peu de choses, si ce n'est qu'elle joue du violoncelle. On a entendu donc le morceau qu'elle interprète. A décidé de couper complètement les ponts avec la société et de ne plus avoir le moindre contact avec quelque humain que ce soit. Et faut avouer qu'en ce moment, on peut la comprendre. Et donc voilà, elle a décidé de s'installer en pleine montagne, d'y établir un refuge, donc cette espèce de capsule ultra moderne. Voilà, être se couper complètement du monde, donc une espèce de Robinson high-tech, une cabane qu'elle qualifie de tonneau, donc tout de suite la dimension métaphysique est là, puisqu'on pense évidemment immédiatement au tonneau de Diogène. Alors voilà, les premières pages, vous l'avez dit, Arnaud, sont plutôt très descriptive, on l'a pu l'entendre aussi dans le passage que vous avez cité. Voilà, on la suit dans cette installation, dans cette nature, la façon dont elle cultive son potager, puisque elle a décidé de vivre en totale autarcie dans ce milieu, donc totalement coupée du monde et de ne compter que sur elle-même. C'est le pari qu'elle fait. Voilà, donc elle cultive son potager, elle pêche la truite, elle chasse les caprins. Son isolement est seulement perturbé par le chant des geais, une rencontre impromptue avec une marmotte, un écureuil ou un crapaud. Voilà, et on se dit, son pari est réussi, elle est totalement seule jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec ce qu'elle croit d'abord être un tas de laine, jusqu'à ce qu'elle voit sortir de ce tas de laine un index prolongé par un ongle immense d'une vingtaine de centimètres, et donc c'est une autre présence humaine.
Comme c'est bien amené tout cela. Éric Loret, premier sentiment sur Céline Minard et ce grand jeu.
Lorsqu'elle voit cet ongle, elle se rend compte que c'est Gilles Deleuze lui-même. En fait, caché, déguisé en tas de laine, qui l'attend dans la montagne. En fait, il avait rendez-vous avec Heidegger dans sa cabane. Ce qui fait qu'il pouvait se poser des questions sur l'accueil, l'altérité, la promesse et la menace tout au long du livre. Et, on a un peu éventé, mais enfin, c'est sur la quatrième de couve, quand même.
Oui, parce que j'ai pas lu en entier, mais quand même.
Donc, on sera pas complètement.
Il faut les lire après, hein. Moi, je lis jamais avant les quatrièmes de couverture.
Souvent, quand on est dans une librairie, quand même.
Jamais.
On retourne le livre.
Mais... Non, jamais.
Alors, le grand jeu.
Quand je vais dans une librairie, c'est pour acheter un livre que je veux acheter avant.
Ah oui, ah bon, mais parce que vous êtes fan de Céline Minard, c'est pour ça. Donc, vous savez que vous l'achetez quand même.
Ouais.
Bon, le grand jeu, moi j'aime bien le titre parce que c'est au contraire un livre extrêmement minéral qui justement n'est pas du tout dans la débauche que promet ou que ne promet pas ironiquement son titre. J'ai pensé, je me suis dit, au début, c'est un roman suisse en fait, ou un truc un peu allemand, c'est Cristal de roche d'Adalbert Stifter avec justement la neige, la montagne, la pénibilité. Après je me suis dit c'est un truc macrobe sûrement parce qu'elle cultive des courgettes. Ça j'ai pensé à mes copines qui font sur leur terrasse dans le 6e arrondissement qui jouent à la bergère. Puisque tu sais, il y a des moutons aussi à la fin, enfin il y a un tas de laine au moins. Donc je me suis dit, c'est vrai, ça va intéresser du monde quand même, cette histoire-là. Après donc, oui, Heidegger et la cabane, bon, bah, c'est un livre sur la promesse et la menace qui nous renvoie, comme l'a dit très bien Elisabeth Philippe, aux angoisses du temps.
La promesse est-elle la méthode elle-même,
voilà,
page 45.
Donc elle hésite entre les deux. Et puis sur l'accueil, puisque à la page 98 et à la page 190, effectivement, on se pose la question de savoir comment on peut encore accueillir l'autre.
On a coché les mêmes, hein. Ben forcément.
Oui. Ben oui.
Mais il y en a quelques-unes, hein, comme ça, tout au long. Hein. Est-ce que l'attention au présent pourrait suffire à constituer une méthode?
Ça, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi.
Alors, justement, là, c'est un petit peu la réserve que j'ai dans cette ambiance de fin du monde à laquelle nous habituait l'auteur, puisqu'effectivement, c'est toujours sur le Far West, le commencement, l'origine, la désolation, le dernier mot, le dernier monde, l'inhospitalier, puisqu'il est aussi question de ça, l'hostilité, l'hospitalité. J'ai quand même été un peu perturbé par la récurrence des questions « est-ce que ceci, est-ce que cela ?» qui font un peu quand même une question discussion de, je sais pas, de dissertation de philo pour Hippocagne première semaine,
et qui sont extrêmement, voilà,
avec de l'humour, mais qui sont extrêmement répétitives. Ça, j'ai eu quand même beaucoup de mal, et j'ai pas trouvé souvent que ça allait très très loin. Un imbécile se prend au jeu, mais un idiot, on se dit oui, c'est vrai. Effectivement, est-ce que jouer à quoi que ce soit, mais alors elle aurait pu dire à quoi joue-t-on quand on joue, par exemple, c'est un bon sujet
pas,
de bac. Ça y est peut-être, je sais pas. La méthode, non, la vie, un idiot jouerait à cela, ouais, bon. Alors,
Mais il y a aussi des choses un peu plus subtiles quand même, mais est-ce que la douleur, est-ce que le plaisir peut être défini par l'absence de douleur? On peut quand même rester un moment sur cette phrase, par exemple, sur cette question-là.
Sérieusement?
Ouais.
Oui, non, mais cette espèce d'abondance de sujets lancés qui sont tous plus ou moins le même.
Oui, mais alors, faut pas réduire non plus le livre à cette dimension-là.
Non, mais ce qui est important, c'est le...
On peut être sensible à la répétition, quand même, ou à la répétitivité.
Non, ce qui est important, c'est la marqueterie du livre. C'est-à-dire qu'on a quand même ces questions-là, mais entre chacune de ces questions, et c'est pour moi aussi un des tours de force.
Il y a des courgettes.
La maîtrise de Céline Millard, il y a certes des courgettes, mais il y a aussi énormément d'ascensions, de descentes, raconté avec une minutie, une précision folle. Alors, à la première, on se dit, bon, très bien, il y en a une deuxième, une troisième, il doit y en avoir 25 dans le livre. Mais à chaque fois, moi, ça me passionne. Et il me semble que le défi, là, il est quand même bien plus élevé que le point 2871, qui est le sommet de son territoire. Quand elle écrit, page 33, le présent, point, une impasse ouverte sur l'infini des deux côtés, le sujet du livre, on l'a compris, c'est le présent. Et il est ô combien au présent, ce livre de Céline Millard. Et moi, c'est ça qui, en tant que lecteur, me saisit forcément à chaque instant, puisqu'on est sur le présent. Bon, je reviendrai vers Eric qui est dubitatif, mais Elisabeth Philippe.
Oui, je suis d'accord avec ça. Et moi, ce que j'apprécie aussi énormément dans ce livre, c'est les différentes strates. C'est un livre qui se situe dans la montagne et on a effectivement différentes strates. Il y a d'abord ce côté très technique. Alors, elle a une langue d'une précision ultra, ultra technique qui en devient poétique, je trouve, dans l'accumulation de ces détails.
Parce qu'elle n'est pas ennuyeuse, elle n'est pas wikipédienne comme certains. Certaines autres.
Voilà. Et vous parliez de ces ascensions. Il y a cette scène géniale où elle suit un carabrou. Je crois que c'est une sorte de scarabée. Mmh. Et voilà, qui la guide pour qu'elle parvienne
alors
comme ça.
Alors qu'elle avait l'air perdue.
Allonger la paroi rocheuse. Donc je trouve ça formidable. Et il y a évidemment cet aspect un peu de petit traité stoïcien et survivaliste. Mmh. Voilà, avec toutes les questions qu'on a énumérées. Moi, ma préférée étant quand même, est-ce que la paix de l'âme, c'est devenir agile et con comme une poule? Et l'agilité, c'est une dimension très importante parce qu'il y a une autre strate très importante, je trouve, dans ce livre, c'est son côté art martial. Mmh. Moi, il y a des passages qui m'ont fait penser à un film comme A Touch of Zen, avec quand même cette créature, donc ce tas de laine, c'est en fait une nonne, une espèce d'ermite comme ça, albinos, qui lévite, qui fait des sauts périlleux.
Ben, on retrouve Bastard Battle, hein. Il y en avait aussi.
Exactement, exactement. Donc elle lévite, elle fait des sauts périlleux, il y a ces personnages de bambou, même le décor de montagne, ça fait penser un peu à des estampes. Donc voilà, on est un peu dans le traité d'art zen aussi. Dans ce livre. Donc il y a toutes ces strates qui se sédimentent comme ça dans le livre et je trouve que c'est ce qui donne de la profondeur à ce texte. Et puis il y a toujours quand même une forme d'humour aussi chez Millard, il faut le dire. Par exemple, elle ne se contente pas de cultiver des courgettes, la narratrice. Elle a une bonne réserve de rhum.
Oui.
Et ça joue beaucoup.
Elle en a pas mal. Hein.
Oui, elle en a pas mal. Et ça joue beaucoup dans la relation avec la nonne.
Je me suis demandé comment elle faisait pour les stocker, effectivement, parce qu'elle en boit à la fin des litres et des litres.
Des litres et des
litres. Pas pour se réchauffer. Parce qu'il fait déjà chaud à ce moment-là, d'ailleurs.
Elle a dû écluser son...
Oui, c'est un pays extrême, terre de contraste, où il fait très froid et très chaud.
Je pense que la nonne peut multiplier les bouteilles de rhum, hein. Ça doit être dans ses capacités.
Je crois que ça fait partie de ça.
Si vous parlez dans le micro, Eric,
ah oui,
encore plus sympathique,
moi, ça m'a fait penser à Seul sur Mars, en fait, comme film. Plutôt, j'ai juste trouvé dommage qu'elle ne cultive pas avec ses crottes du hashish.
C'est pour la saison 2 du grand jeu.
Dans Seul sur,
mais il est quand même question de crottes aussi.
Comme dans Seul sur Mars. Sur le jargon, enfin, c'est-à-dire l'utilisation du jargon au sens technique, c'est-à-dire l'emploi de mots effectivement qui viennent d'un domaine particulier qu'on retrouve dans d'autres livres de Céline Millard. Moi, j'ai eu plus de mal, j'avoue, à trouver que ça rendait compte d'une expérience ou de... Alors effectivement, on peut dire on est au contraire totalement dans l'imaginaire et précisément ça ne rend compte de rien. J'ai pas eu l'impression que c'était ce qu'elle voulait faire. Ça m'a fait penser à un autre livre qui est celui de Christine Montalbetti.
Absolument.
Qui se moque plutôt, alors plus franchement, plus directement, de l'impossibilité de raconter quelque chose qu'on n'a pas vécu, ou qu'on tente d'imaginer sans y parvenir. Là, la débauche, la fin, je dois être assez bête, j'ai pas du tout compris ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que la multiplication de termes techniques d'escalade.
Je vous ferai un dessin.
Voilà, merci, parce que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment chercher chaque terme? Et après, je vais pas rien comprendre, parce que j'en ai jamais fait.
Mais il y a le manga qui arrive.
Voilà, c'est ça, mais elle saute où, dans quoi? Alors, ça doit être le côté manga qui m'a un peu échappé. Non, mais voilà, donc à la fois, je suis sensible aux vraies questions existentielles qui sont celles du moment. Après, la réalisation, moi, m'a pas, submergé de bonheur. Mais
c'est votre droit.
Voilà, et c'est mon droit le plus strict.
Vous êtes là pour le dire, même, en plus. Ça, imaginez-vous. Elisabeth Philippe ?
Oui, Eric évoquait Christine Montalbetti. Je suis entièrement d'accord pour ce lien que vous faites, notamment dans le. C'est des auteurs qui, toutes les deux, Céline Minard et Montalbetti, aiment ont le sens du détail. Donc, leur livre regorge de détails. Moi, j'ai pensé aussi à Olivia Rosenthal, à Mécanisme de survie en milieu hostile, déjà pour le thème un peu survivaliste. Et en fait, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est peut-être une petite digression, il y a beaucoup de romans. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle ne cherche pas à séduire. Je sais que Marie Ndiaye, que j'ai interviewée pour son prochain roman La Chef, qui sort en octobre, me disait je ne veux pas séduire. Et je trouve que Céline Minard ou Christine Montalbetti, peut-être dans une moindre mesure, mais Olivia Rosenthal aussi, sont des auteurs qui ne cherchent pas à séduire. Et là, c'est clairement le cas avec Le Grand Jeu, c'est-à-dire qu'on part quand même de le pari est risqué au départ. Voilà, ce côté traité stoïcien, un peu métaphysique, à la fois très physique avec des termes très techniques. Bon, ça peut paraître un peu rebutant, un peu granitique comme ça, comme la montagne dans laquelle se déroule
comme sa langue, dit-elle, qui
l'action,
devient du papier émeri
et moi je trouve que le pari est complètement gagné dans la mesure où on est totalement pris dans cette histoire, c'est quand même, il y a quelque chose de très physique, il y a une dimension d'aventure et en même temps il y a de la profondeur, donc pour moi le pari est réussi et sans vouloir filer la métaphore du jeu trop longuement, mais Minard remporte la mise avec ce livre, je trouve.
Très bien. Ça va être Eric Loret, ou voulez encore dire...
Non, je ne dirai rien sur la dernière phrase à laquelle faisait allusion ma collègue.
Bon, restons-en là pour Céline Minard et Le Grand Jeu, qui est donc publié chez Rivage.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de Bleu, Blanc, Noir de Karim Amelan aux éditions de l'Aube. On évoquera aussi plus rapidement Crépuscule du Tourment d'Eleonora Miano chez Grasset et Le Sanglier de Myriam Chérous chez Buchet-Chastel. Avant cela, il est grand temps de suivre Lucille Como dans le Petit Salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud. Je vais parler de foot. Non.
Ben, vous pouvez, hein. Ça, c'est pas moi que ça dérangerait, hein, vous savez.
Michel Butor, donc ça commence pas tellement foot. Michel Butor, disparu la semaine dernière, est associé dans La tête de tous aux éditions de Minuit, maison phare du nouveau roman. De fait, c'est Minuit qui avait publié La Modification en 1957, ou La Consolidation, comme l'a rebaptisé le communiqué du ministère de la Culture. Mais après ça, Butor a traversé toutes les grandes maisons, à l'inverse d'un Claude Simon ou d'un Alain Robbe-Grillet, qui eux sont restés fidèles jusqu'au bout à la maison de Lindon. Sans doute, cette liberté vis-à-vis des éditeurs était pour lui la revendication de n'appartenir à aucun courant, ce que la postérité n'a pas vraiment retenu, le cantonnant jusque ces dernières semaines au nouveau roman. Ce petit détour pour aborder la question du mercato des éditeurs en cette rentrée littéraire qui voit publier plus de 500 romans. C'est vous, Éric Loret, qui employez ce mot de mercato, d'habitude l'apanage du commentaire footballistique, pour décrire les transferts d'auteurs entre différentes maisons. Stéphane Audguy passe au seuil, Karine Thuil chez Gallimard, Nina Bouraoui chez Jean-Claude Lattès, pour n'en citer que trois. Prenons Karine Thuil, par exemple. Elle publie chez Gallimard L'Insouciance, un roman dont les personnages sont autant de curseurs sur le tableau de notre société contemporaine, subissant déchéance et montée en grâce, et cela assez proche de son précédent roman, L'invention de Dovi, paru chez Grasset. La maison Grasset, à laquelle elle était pourtant restée fidèle depuis 15 ans. À propos de ce changement, elle ne dit pas grand-chose, seulement que c'est, je cite, un nouveau défi. Nouvelle aventure, disait Philippe Delerme en 2012, pour justifier son départ de Gallimard, nouveau défi, formule toute faite pour cacher des inimitiés, des vexations, des frustrations nées de prix manqués. Alors pourquoi les auteurs quittent-ils leur maison? Parfois pour suivre leurs éditeurs, comme Jean-Marc Robert, qui changeant de maison entraîne à chaque fois avec lui le fidèle Philippe Claudel, par exemple, parfois pour des raisons financières, des questions de publicité, mais au-delà des hics affectifs et des questions de gros sous qui, j'imagine, sont les enjeux principaux de tels divorces et remariages, je pose la question. les grandes maisons ont-elles encore de vrais projets esthétiques? Y a-t-il une cohérence dans les catalogues du Seuil, de Gallimard, de Grasset et autres géants de l'édition? Et à l'inverse, vous autres critiques littéraires, est-ce qu'en lisant un roman, vous vous dites « ça, c'est du Gallimard » ou « ça, c'est du Grasset » Évoquons pour conclure les éditions de Minuit, qui en cette rentrée ne publient qu'un titre, le roman Continuer de Laurent Mauvignier, qui leur confie la publication de ses livres depuis plus de 15 ans. Là, au moins, c'est cohérent.
Oui, ça c'est du Minuit, hein, Laurent Mauvignier, il n'y a pas de doute là-dessus. Se dire aujourd'hui « ça, c'est du Gallimard », voire « ça, c'est du Grasset », ça me paraît effectivement beaucoup plus compliqué, Elisabeth Philippe.
Bah, pour répondre à cette question-là, je voudrais citer nos confrères de l'Obs qui ont fait une sorte de typologie des différentes maisons d'édition avec leurs petites fiches d'identité. Alors, dans mon souvenir, je crois que Gallimard, c'était la machine à prix. Je crois que Fayard avait été comparé au BHV, je pense pour la plus grande joie de Sophie de Closet. Donc, oui, je pense, il y a des maisons, effectivement, dont on reconnaît la ligne. Je pense à Actes Sud. Et à ce titre, je pense que le passage de Salman Rushdie chez Actes Sud n'est pas du tout aberrant. C'est même très, très cohérent avec une maison de la ligne, le catalogue d'une maison d'édition quand même très tournée vers l'Orient. Voilà. Après, oui, pour Gallimard, le passage de Karine Tulle chez Gallimard, bon, je pense que c'est plus une question de prix, puisque je crois
de prix manqué ailleurs.
De prix manqué ailleurs. Elle était allée assez loin dans la sélection du Goncourt, il me semble.
Plusieurs reprises.
Voilà. Donc peut-être que là, elle a voulu tenter la grande aventure en disant qu'effectivement, si Gallimard est bien la machine à prix que décrit l'Obs, elle aurait plus de chances.
En tout cas, l'accueil médiatique critique est là pour Karine Tuella.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez mitigé.
Ah bon, moi j'ai l'impression que c'est... Non, dans le monde des livres, le roman a-t-il été traité avec Laurent?
Ah oui, dans le monde des livres, ils ont fait un papier absolument génial. Une rencontre en profondeur sur toute son œuvre.
Bon, donc voilà, il m'a semblé qu'il y avait quand même un accueil qui n'était peut-être pas le même que pour les précédents, donc peut-être que le transfert a du bon. Pour les prix, c'est quand même une toute autre histoire. Mercato, vous l'expliquez comment, vous?
Alors, c'est un terme que j'ai pas inventé, évidemment, bien qui sûr. Traîne depuis quelques années. Vous dites que je l'utilise. Ah. Lucille, je vous remercie de
je
me le rendre,
mais
voilà, c'est une banalité. Pour répondre à votre question précisément, qui était les grandes maisons d'édition ont-elles une ligne
encore, une identité
une identité esthétique, donc vous avez dit, je crois, c'est ça. Moi, je le crois, parce que les éditeurs qui travaillent dans ces maisons sont des gens tout à fait respectables et qui ont des idées précises, voilà, de ce qu'ils veulent. Après, ce qu'il faut peut-être rappeler, comme à chaque rentrée, donc les rentrées sont quand même un petit peu dirigées vers les prix littéraires, c'est-à-dire qu'on n'a pas un état de la création contemporaine. Quand on parle de la rentrée littéraire, c'est exactement comme si on disait que la FIAC, c'est la même chose que la Documenta. C'est-à-dire qu'il y a des foires d'art contemporain d'un côté, et puis il y a des expositions avec des commissaires qui essaient de découvrir des choses. Dans la rentrée littéraire, on est clairement dans le cadre d'une foire. C'est-à-dire qu'on expose ce qu'on a de meilleur, ce que les acheteurs vont pouvoir emporter. Est-ce que la Anish Kapoor est de la bonne couleur pour aller dans le salon ou pas, là c'est la même chose. Bon, donc il y a quand même cette nécessité de faire valoir ce qu'on a de plus digeste, d'une certaine façon, de plus achetable, de plus primable. Après, à l'intérieur même d'une maison même extrêmement cohérente, il y a évidemment la nécessité de nourrir, enfin de faire vivre une ligne éditoriale, et si celle-ci est extrêmement exigeante, comme ça arrive souvent, il y a quand même la nécessité aussi de vendre. Par ailleurs, si bien qu'au sein d'une maison, on aura en général quand même une partie du catalogue dirigée vers les ventes, vers les prix, vers le grand public, et dont les éditeurs avouent volontiers que ça sert quand même à faire vivre ce qui, par ailleurs, a des petits tirages, se vend peu, mais qui restera peut-être de façon ironique plus longuement dans l'histoire littéraire, si ça a encore un sens, comme l'esthétique, je ne sais pas si ça en a encore un. Bon, voilà, donc du coup, même quand il y a une vraie cohérence, elle est quand même mise à mal, si vous voulez, entre guillemets, ou en tout cas, il y a une entorse qui est la nécessité de survivre. Donc moi je crois que oui, qu'il y a une cohérence éditoriale, et elle peut être perturbée après par des événements. Enfin, pour essayer de répondre à votre question, elle est perturbée, ou en tout cas, elle est, voilà, il y a des aménagements qui sont à faire pour une question de survie.
Oui, parce que pour le plus grand public, il y a des éditeurs, mais enfin des maisons d'édition plus exactement, mais effectivement dans ces grandes maisons, il y a plusieurs éditeurs, et à chaque éditeur correspond une écurie d'auteurs, on va dire ça comme ça, pour continuer sur le métaphore sportive, mais c'est quand même le cas. Et donc vous parlez de Jean-Marc Roberts effectivement tout à l'heure, ça a été le cas de Paulo Tchaïkovski, Laurence de Hachette quand il a créé sa maison. Enfin, il y a eu beaucoup de cas comme celui-ci. Il y a des cas aussi plus complexes parfois. Christine Angot stocke très longtemps, puis Flammarion, puis une incursion au Seuil assez catastrophique, retour chez Flammarion. Donc il y a des grandes figures effectivement éditeur ou éditrice qui passe d'une grande maison à une autre et qui font venir à elle soit leurs anciens auteurs, soit de nouveaux qui ont envie de travailler avec elle ou lui, Elisabeth Philippe.
Oui, je pense notamment à Alix Penant chez Flammarion et donc le récent transfert, voilà, si on peut faire les termes footballistiques, de Véronique Ovaldé, donc qui est passée de l'Olivier à Flammarion et avant elle Olivier Adam. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté transfert, changement, mais il y a aussi des fidélités finalement souterraines derrière ces transferts à un éditeur, donc et effectivement qui permettent de conserver une forme de cohérence.
Mais ce qui est plus compliqué, je parlais de Gallimard tout à l'heure et j'aurais dû mieux faire mon travail à la maison avant de venir dans ce studio, c'est que Gallimard, je ne sais pas combien de titres il publie par an, mais il est quand même, ça va être un nombre quand même tout à fait impressionnant de nouveautés, hein, dans La Blanche, la grande collection que tout le monde reconnaît. Difficile d'y voir une cohérence, Éric Loré. Non, ou une esthétique.
Comme vient de le dire, La Blanche, au contraire. Hein,
c'est, non, c'est... mais il y a du polar comme il y a du.
Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même une esthétique. On publie pas. Ce qui se publie, certains textes de chez Minuit, chez POL, chez Wombat, chez Attila, que sais-je, Nouvelle Attila, sont impubliables dans La Blanche. C'est une évidence. Donc, il y a une esthétique classique, entre guillemets, pas toujours, d'un juste milieu, enfin, classicisme au meilleur sens du terme, pas du tout académisme, mais qui caractérise La Blanche, c'est évident, qui ne se permet pas des divergences ou des hétérogénéités qu'on aura chez Grasset, par exemple, pour un éditeur comparable entre guillemets. Mais alors donc le nombre assez important d'éditeurs chez Gallimard fait que, enfin, moi il me semble, il y a quand même, bien sûr, des têtes assez différentes. D'un côté on aura, je sais pas, Benoît Dutertre pour cette rentrée, et de l'autre Chloé Thomas ou Natacha Apana qui elle vient de Continent Noir, ce qui était encore un autre éditeur. Ça, il y en a un peu pour tous les goûts dans un juste milieu. Gallimard, moi ça me semble très cohérent. C'est pas celui dont je dirais que c'est le plus.
Alors c'est le plus
hétérogène.
Alors lequel serait le plus hétérogène alors?
Mais je sais pas, parce qu'après c'est en dessous de mes goûts, c'est-à-dire que c'est en dessous de
sur votre radar.
C'est en dessous de mon radar après, c'est-à-dire je sais pas ce que c'est, donc je peux pas.
Il y a des maisons, vous dites non, ça c'est je sais pas ce que c'est, je vais même pas ouvrir les livres.
En tant que rédacteur, oui. Après en tant que responsable d'un service, non, bien sûr.
c'est courageux. Elisabeth Philippe.
C'est pas le même job.
Non. Oui, non. Ajouter, si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'il y a des maisons comme POL, immédiatement on se dit ça c'est POL. Je cherche des exemples.
Mais même, je pense, Caroline Octan chez Fayard, ça pourrait être chez POL.
Bon, alors, puisqu'on parle des gros, moi j'aimerais que vous nous donniez un peu des envies d'aller voir les petits, parce qu'on a, les petits, hein, je mets beaucoup de guillemets, ceux qui n'ont évidemment pas les mêmes volumes de transactions financières, de titres publiés par an. Avant peut-être même de parler vos coups de cœur, pour le coup, il y a des maisons dont vous voulez regarder tous les livres qui arrivent sur vos piles énormes dans vos bureaux respectifs.
Parmi les plus petites maisons.
Oui, Elisabeth Philippe.
Moi j'aime beaucoup ce que fait le Tripode, par exemple, le Nouvel Attila aussi.
Qui sont la même, avec les enfants de la même maison, Attila.
Ça, c'est fait partie des choses que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Marc Yali aussi, dans le genre narrative non-fiction. Ils sont quand même des textes intéressants. C'est eux qui avaient publié Tokyo Vice. En plus, c'est une équipe de très jeunes gens. Donc,
il y a une jeune maison,
donc on a envie de la suivre.
Trois titres ou quatre titres.
Ça, là, ils en sortent un prochain sur un boxeur mexicain, je crois. C'est les maisons qui me viennent.
Éric Loré, des noms à ajouter?
Pas forcément très petits. Moi, je regarde en général Sabine Vespizer. Oui. Chez Chastel, c'est des moyens là plutôt, un peu plus petit Kidam peut-être, pour les étrangers, qui fait souvent des choses formidables, mais là il y a le Frédéric Fioloff qui sort, qui est assez intéressant, La magie dans les villes, je sais pas, les titres de Alia, ça c'est encore un autre, c'est entre fiction et essai, des textes, Le Chauvier est très bien, on peut pas dire de Alia que c'est une petite maison, en tout cas par là.
Non, mais elle a sa place.
En tout cas, voilà.
Mais elle n'est pas identifiée suffisamment.
Je crois.
Des éditions comme Un culte aussi.
Oui, voilà. Là aussi, qui est assez ancienne. Mais je dirais oui, Tripode, bien sûr, pour cette rentrée, c'est assez évident avec Alice Amir.
Parce qu'effectivement, dans cette rentrée littéraire et cette abondance, il faut quand même aussi avoir l'œil au-delà des grandes tables des libraires qui font un travail évidemment très important. On a eu un peu votre sentiment général, Éric Loré, sur cette rentrée, peut-être le vôtre, Elisabeth Philippe. Vous l'avez dit avant le début de l'émission, tout lu. Donc nous avons la critique française
qui a tout lu. Le nez qui
les 560 livres de la rentrée. Et je reviens vers vous, Éric. Un sentiment un peu général, c'est toujours un peu compliqué, mais sur des thématiques rentrée française, puisque ce soir, on parle de littérature française.
Thématique, moi, j'en vois pas forcément de très très nette qui se dégage, peut-être moins que les années précédentes. Il y a eu beaucoup de papiers autour des thématiques sur les exofictions, les biographies de peintres. Bon, pour moi, c'est pas forcément un thème. Enfin, il y a pas de problématique derrière ça. Peut-être quand même l'envie de refuge, d'isolement, de couper avec le monde. Et ça, pour le coup, ça fait certainement écho à voilà un tourment actuel ou à des voilà je pense des choses qu'on éprouve mais sinon non, c'est une rentrée je trouve assez calme, assez étale, je sais pas comment, avec des choses de qualité, de bonnes surprises, voilà.
Bon, votre ancien journal Les Inculptés n'a pas fait sa une habituelle sur le Goncourt, c'est lui ou c'est elle, ce qui évitera à celui-là ou celle-là de le perdre, de ne pas le gagner.
On n'a jamais fait ça.
Mais si, chaque saison, le grand roman de la rentrée, c'est lui, c'est elle, c'est pendant les 10 dernières années, mais ça n'a jamais réussi. Donc
ils ont fait Rajdi cette fois-ci.
Ah oui, en une ?
Ouais.
Ah ben j'ai raté ça. Bon, il faut que je me plaigne auprès de mon facteur. Éric Doré, vous vouliez ajouter quelque chose sur la rentrée ?
Non, j'allais dire Galade aussi, c'est pour les étrangers, ouais. C'est très bien, voilà. Non mais grec, hongrois, tout ça.
Galade.
Turc. Rien, j'allais dire, oui, c'est une rentrée. Effectivement, on voit que lorsque les médias ont voulu sélectionner les 10 meilleurs romans, ils ont pris en gros Stephen King, quoi, et Vincent Delerme. Donc on se dit, bon, ils sont pas allés chercher très loin. Bah si, je citerai pas mes concurrents.
Philippe Delerme.
Philippe, oui, pardon, c'est pareil. Non, je plaisante, bien sûr. Mais ça correspond, à mon sens, à une fragmentation, une segmentation du lectorat. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde qui se met à lire le même livre, et ça, c'est quand même plutôt positif.
Ça, c'est bien, ça.
C'est quelque chose qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, ça s'étale dans le meilleur sens du terme, il y a une vraie segmentation.
Ça, c'est un fait nouveau, voilà. Cette année, il m'a semblé, ou alors j'ai peut-être pas bien lu les journaux, c'est possible, qu'on nous a pas dit le premier roman de la rentrée à lire, c'est celui-là.
Non, il y a plein de, très bons, ou disons plein de romans intéressants en cette rentrée que différentes personnes ont envie de lire.
Non, mais c'est bien.
Je pense que les jeux ne sont pas faits tout de suite comme les années précédentes et que ça peut permettre à la rentrée de s'installer un peu dans le temps.
Peut-être permettre de lire.
Et de lire.
Ce serait pas mal finalement d'avoir un avis une fois qu'on a lu et plutôt qu'avant. Bon, ben voilà, un riche et bien rempli petit salon. Et on poursuit, bien sûr, cette dispute littéraire du vendredi soir. Avant de nous disputer autour de bleu, blanc, noir, arrêtons-nous quelques instants sur vos coups de cœur. Vous parlez de Buchet-Chastel, Éric Loret, ça tombe bien. C'est votre coup de cœur, c'est Myriam Chirous, Le Sanglier.
Voilà, mais alors
les courgettes.
Il faut un peu de viande.
Le sanglier aux courgettes, la recette du soir.
Bon, on ne dira pas pourquoi ça s'appelle le sanglier, il y a une petite raison. Il y a un moment totalement délirant avec des bocaux au milieu du livre, je ne raconterai pas non plus. Ça commence la nuit, un couple se lève dans un français tout à fait contemporain. La femme dit « tu reveux du café », ce qu'on lit assez peu dans les romans. Tout d'un coup, quand on le lit, on se rend compte qu'en fait, on écrit rarement « tu reveux ». Veut du café, ce que tout le monde dit. Et ils vont chez Mamivette ce jour-là, c'est un samedi, et avant d'aller chez Mamivette, peut-être qu'ils passeront acheter, parce que monsieur a un coupon de réduction pour acheter des pantalons. Et alors, je vous raconte ça pour vous dire que c'est une histoire donc d'une banalité affligeante, que évidemment ils ont tous les deux envie de mourir, comme dans hashtag envie de se pendre. La femme dit ça t'apprendra quoi, un moment, dit-elle à son mari sur un parking, que cette vie me gonfle profondément. Lui répond-il, il se taise, elle le regarde, il tapote ses dents du bout de son ongle et regarde le distributeur de billets devant lequel un homme âgé s'arrête. Alors, qu'on
s'en... Lucille Clomeau, faudrait avoir la suite de ce paragraphe essentiel du livre.
Eh ben, je vous le dirai pas. ils vont aussi, voilà, chez Sandy, faire quelques courses.
Chez quoi?
Sandy, vous verrez, c'est un magasin de fringues pour femmes. Et acheter du vietnamien pour apporter à Mamivette qui, je crois que c'est vietnamien.
Attention, elle a tout lu.
Ah bon? C'est le mandarin céleste. En tout cas, vous avez raison.
Chinois. Le mandarin céleste, c'est possible.
Bon, du coup, il rapporte des biscuits. Bon, bref, tout ça, on s'en fiche complètement. Le plus important, c'est que Myriam Chirous réussit à nous introduire, on va dire, dans l'horreur de la matière vive, de l'ennui dès le début. La description de la nuit, c'est une nuit de gel à pierre fendre, mité d'étoiles, sans lune aucune qui argente les montagnes. Pourtant, c'est pas du tout Céline Minard, mais ça y ressemble un peu. Et on a l'impression que ces gens sont en train de nager, de s'enfoncer dans une matérialité, celle des dialogues, de la voiture, des parkings. Et je sais pas, ça m'a tellement rappelé ma vie affreuse que ralenti, freine, lui crie-t-elle dessus, enfin des choses comme ça de tous les jours.
On vous dit ça, vous?
Ouais. Tous les ralenti, jours, freine. Tous les jours quand j'écris, ils me disent ralenti,
moi,
freine.
Je vous dis ralenti quand vous lisez, mais c'est.
voilà que c'est, non, il y a un vrai truc de perception en fait, voilà, c'est-à-dire qu'elle là encore, c'est une de ces auteurs qui a réussi à mettre en phrase de façon un peu cubiste cette perception du moi, de l'englué. Bon, voilà, on va terminer là-dessus, c'est l'engluement.
Est-ce qu'il y a un
c'est
air
pas
de
très, c'est pas très original, hein, mais
est-ce qu'il y a un air du merveilleux livre de Joël Egloff, J'enquête? Ouais, dans l'englument.
Un petit peu.
Hein? Quelle merveille
peu,
c'était.
Un petit peu, mais là c'est Christian et Carole, c'est un petit peu moins drôle.
C'est moins funky.
C'est,
ouais.
Mais c'est assez horrible et le on peut vraiment palper ce quotidien qui nous exaspère tous. Hein, comme il dit, j'ai envie de crever, quoi, ça m'ennuie. Je crois que ma collègue Elisabeth est tout à fait d'accord avec moi.
Oui, non, je vous remercie parce que sans vous, je serais peut-être passée à côté et j'ai énormément aimé ce texte aussi.
On ne vous a pas dit qu'il ne fallait pas lire Le coup de cœur de l'autre?
Non, vous n'étiez pas obligé. Mais comme elle a
je
tout
sais
lu,
pas, c'est ma première fois, alors j'essaie de tout bien faire.
Comme elle a tout lu, elle a même lu Le sanglier de Myriam Chirouz qui paraît chez Buchet Chastel. Elle ne le regrette pas et je vais le faire de ce pas. Elisabeth, vous avez choisi Crépuscule du tourment de Leonora Miano qui paraît chez Grasset.
Oui, tout à fait. Donc c'est le 12e livre de Leonora Miano, donc cette écrivaine née au Cameroun en 73. Donc son œuvre, composée à la fois de romans, de pièces de théâtre et d'essais, et traversée par les mêmes thèmes, c'est les identités africaines, ce que c'est qu'être noir aujourd'hui, ou également le thème de l'esclavage qui se trouvait au cœur de son précédent livre, La saison de l'ombre, qui a été couronné par le prix Femina en 2013. On retrouve toutes ces problématiques dans Crépuscule du tourment, mais cette fois portées par un souffle féministe intense et qui, à mon sens, redouble leur force d'interpellation. Et pour employer un vocabulaire un peu en vogue aujourd'hui, pour moi, c'est un roman de la convergence des luttes, vraiment un roman de l'intersectionnalité, dans ce sens où ça crée un lien entre toutes les formes de domination, qu'elle soit la domination masculine, la domination sociale, la domination raciale et la domination coloniale, puisque c'est, alors on pourrait penser que c'est un texte très politique, un roman à thèse. Alors c'est un texte très politique, mais absolument pas théorique et pas du tout un roman à thèse, parce que c'est un livre bien trop lyrique pour cela, puisque c'est un chœur de femmes. C'est vraiment un quatuor, une mélopée, quatre voix de femmes qui se succèdent, qui toutes s'adressent au même homme, qui lui ne prend jamais la parole. On entend d'abord la mère, qui évoque la violence qu'elle a subie, la violence de son mari. Ensuite, l'ancienne compagne de cet homme, sa fiancée du moment, puis sa sœur. Donc, chacune, son tour, ces femmes dévoilent leur intimité, et en même temps dévoilent un fragment de l'histoire du pays où se déroule l'action, un pays d'Afrique subsaharienne qui n'est jamais nommé. Et en fait, s'établit un lien entre la façon dont elles tentent, puisque tout, en fait, raconte un chemin vers l'émancipation. Comment elles se sont réappropriées leur corps, leurs désirs. Et il y a un parallèle qui s'établit avec la façon dont le pays anciennement colonisé, le pays d'où elle parle, la façon dont ce pays s'est réapproprié ou tente tant bien que mal de se réapproprier son destin. Et moi, je trouve que c'est vraiment un livre en cela très important, très politique, en même temps très sensuel. Je suis juste un peu gênée par la dernière page. On tombe dans quelque chose de très prosaïque. Il est question de végétalisme ou de vegan. Enfin bon, j'ai pas bien compris pourquoi. Mais c'est tellement beau avant. C'est un livre vraiment qui mêle toutes les colères du monde, toutes les colère actuelle, et en même temps qu'il leur apporte un antidote, voilà, par l'intelligence. Et en plus, c'est pas du tout manichéen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victimisation à outrance, c'est très réfléchi et c'est très politique. Je voudrais juste, j'ai le temps, citer ces phrases donc de l'ancienne, la compagne actuelle, la fiancée de l'homme, donc qui, elle, a vécu en France et raconte ce que c'est que d'être noire. D'être noire en France, donc on appelle ça le Nord, chez Leonora Miano. Le Nord devenait de plus en plus difficile à vivre parce qu'il se sentait mourir et ne s'y faisait pas. Nous ne comptions pas y retourner, des vents malsains y soufflaient qui ramenaient la xénophobie, le racisme, l'impossibilité de n'être que soi, un individu tranquille dans son coin, et quelque chose dans ce climat incitait les uns et les autres à choisir leur camp, à découvrir qu'ils en avaient un en fait. Ils l'avaient toujours ignoré, certes, mais à présent, on les sommait de prendre parti, position, fait et cause, de faire bruyamment leur coming out et dans tous les domaines.
Léonora Miano, Crépuscule du tourment, ce livre vient de paraître aux éditions Grasset.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Deuxième dispute du soir autour du livre de Karim Amelal, Bleu, Blanc, Noir, paru aux éditions de l'Aube. Karim Amelal avait sorti un premier roman chez Stock, Cité à comparaître. Qu'en allait-il être du suivant ? Réponse dans quelques instants.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since.
Mais maintenant, c'est Eric Lorey qui continue à chanter la chanson. Sous vous et Frank Sinatra, c'est presque pareil. Même, la même voix, quoi.
Non, je suis genre,
pas du tout enroué ce soir. Hein. C'est vraiment une merveille. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer ce titre de Karim Amelal, Bleu, Blanc, Noir, ce livre, pour notre dispute, Eric ?
Eh bien, étant un garçon studieux, je regarde tous les livres, y compris ceux que je connais pas, enfin surtout ceux-là. Et donc, je suis tombé immédiatement amoureux de ce roman que là encore j'ai dévoré. J'ignorais absolument tout. Bon, le pitch, évidemment.
Allez-y.
En gros, Mireille Lefacq, présidente du Parti National, est élue en 2017
à la présidence de la République.
Elle succède à Martin Luxembourg. On est en pleine nous-mêmes en fait, puisque le roman commence au milieu des attentats islamistes, de la militarisation entre guillemets du pays, l'état d'urgence prolongé, vigipirate renforcé, etc. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qui allait arriver l'année prochaine. Donc
ce qui allait arriver, en l'occurrence, à ce narrateur qui n'est pas n'importe quel narrateur.
Alors qui est un narrateur français et qui assez vite est renvoyé à son origine maghrébine par une de ses collègues de bureau et un narrateur qui est directeur d'une banque d'investissement. Alors c'est pas aussi prestigieux que ce qu'on pourrait croire. Il travaille en gros dans la finance. Il a fait fortune. Il mange des gigot à 28 euros, il est marié avec Agnès, voilà, tout va bien, c'est un Français comme tout le monde. En fait, non, il se rend compte que c'est un Arabe de service, assez, pour le dire vulgairement, assez vite. Et par-delà cette histoire, alors effectivement, les bouleversements que le terrorisme, hein, parce que ça, c'est des vraies questions, des vraies choses qui se posent en ce moment, c'est-à-dire la façon dont les Français non musulmans voient les Français d'origine maghrébine, de culture musulmane, etc. Ça se passe dans le roman partout.
Ah, c'est pas l'anticipation,
c'est pas l'anticipation. J'étais encore hier à la terrasse d'un café où j'entendais un monsieur qui dit « Allô, c'est Fouad, écoute, je voulais te poser des questions parce que je comprends rien à cette histoire de voile, là, ce qu'il défendre au nom de la démocratie, ça m'énerve, mais alors l'excitation contre le burkini, je comprends rien. Mais alors moi, beurre de première génération, disait-il à son téléphone, tu comprends, enfin nous, il y avait bien les filles qui étaient mariées de force, mais c'était la tradition, c'était autre chose, donc j'étais fasciné. J'avais l'impression d'être dans le roman de Karim Amelal. C'était à Belleville. Et donc, ça parle vraiment d'aujourd'hui. Donc, à la fois, il y a une analyse politique des lâchetés, de la démission de la gauche. Alors, il y a une caricature extrêmement caustique de tous les journaux. Il y a que Le Globe qui s'en tire bien.
Ça, c'est le journal que lit le narrateur, ça.
Ouais, assez curieusement. Mais le 68 art libéré sous la plume de Laurent Fringeau en prend pour son grade. Donc, il sait pas qu'il lui arrive vraiment des choses à lui, finalement, sauf que ses parents vont finir par être inquiétés, sa femme va être soumise à des interrogatoires, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'elle est mariée avec un musulman, d'une certaine façon. Et puis, l'accession au pouvoir de Mireille Lefacq, qu'est-ce que je peux dire en faveur de ce roman que je trouve vraiment tellement contemporain, tellement extraordinaire, sinon qu'au moment où Mireille Lefacq, à la télé, décide qu'après un ultime attentat, qui est en fait un attentat de l'opposition, c'est-à-dire, en gros, c'est Tikoun, quoi, l'opposition dans le roman, dit bon alors écoutez patriote, il faut prendre les armes, etc. Et au moment où je lisais ça, c'était en juillet, donc il y a assez longtemps, c'est juste après le 14 juillet, je vois Bernard Cazeneuve qui dit alors patriote, il faudrait entrer dans la réserve si vous voulez. Donc il y a une espèce d'électrochoc pour moi, même si c'est pas comparable, on est dans un cadre républicain, évidemment l'armée de réserve c'est tout autre chose qu'une milice, mais la similitude exacte du discours, la prise de parole télévisée tout, mais à quelques heures près, c'est-à-dire et dans les circonstances tragique qu'on vivait, c'était vraiment affreux et remarquable. Donc c'est surtout un roman en fait qui m'a fait penser un petit peu à Seul dans Berlin de Hans Falada, qui est une dénonciation de toutes les bassesses, de toutes les compromissions. Alors je vois que ma collègue tique un petit peu.
Oui, parce que là vous y allez fort quand même sur la référence, mais sur le fond, on va peut-être parler de forme quand même.
Sur le fond, parce que il épargne personne, c'est-à-dire il y a une espèce de mollesse, tout est amorphe de, et alors il fait remarquer que voilà, on est tellement jiquisé, start-upé, fan de la dernière appli qui fait livrer des burgers à domicile, qui a plus de conscience politique, plus de conscience collective, et ça, il y a un côté autocritique dans lequel on est obligé, sûrement si on est un peu dominé et malade comme moi, de se reconnaître. Et de l'autre côté, il y a tous ses collègues, alors son cousin, qui sont tous complètement barrés. Il y en a un qui devient collabo, en gros, c'est-à-dire qui se présente, dit je vais être l'arabe de service, et je vais être obligé d'être élu député chez Mireille Lefacq. Un qui pète un câble, il voit un complot juif, il dit non mais en fait Mireille Lefacq elle est pro-arabe en réalité, et puis il commence à lui sortir des... C'est tellement vrai, c'est tellement tout ce qu'on entend sur les forums, sur internet, partout. Et par ailleurs il y a des qualités évidemment d'écriture où on rigole beaucoup dès le début, c'est les oiseaux, donc ils s'amusent avec les grands mythes, il nous décrit un ciel d'augure avec les oiseaux qui passent, au cas où on n'aurait pas compris qu'il prédisait quelque chose, et dès le début Louise arrive et dit je sais pas quoi, le ciel bavait et elle avançait comme un bateau ivre, on se dit oui il manque plus que la poupe pour avoir le vers complet, donc comme ça il y a des morceaux de culture avec lesquels il s'amuse et qui tripatouille. Bon, enfin voilà, donc je...
Vous arrêtez là pour l'instant pour savoir si Elisabeth Philippe vous invite tout lu Bleu, Blanc, Noir avant que Eric Lorraine le propose.
Non mais
vous l'aviez déjà repéré ce livre-là?
Non, je ne l'avais pas repéré. Alors, que dire
Par quoi commencer?
Par quoi commencer? Effectivement, vous parliez d'électrochoc, je pense qu'effectivement il est très important qu'il y ait des livres qui nous sortent un peu de notre torpeur par les temps qui courent, mais je suis pas sûre que ce soit ce livre-là qui puisse y parvenir. J'ai été d'abord charmée par les premières pages, effectivement, avec ces références aux mythes, voilà, les aruspices, etc. Très bien, mais ça s'est vite gâté. Déjà, moi, j'ai pas supporté l'accumulation de jeux de mots qui finissent par faire un peu Almanach Vermeaux, Martin Luxembourg.
Ça, il adore Eric Loré. Vous voyez, ça le fait rire encore.
Ricardo Buffon pour Manuel Valls. Frédéric Barber du Rapide. Aurez-vous reconnu l'homme à l'écharpe rouge? Jean-Michel Albacache, BSN TV. Ouais. D'un moment, j'en pouvais plus. En plus, ça freinait un peu ma lecture parce que je m'arrêtais. Est-ce que je comprends bien le jeu de mots, là, etc. En plus, il y a des incohérences. Par moment, Jospin, c'est Pain Jos, et puis il redevient Lionel Jospin. Donc, puis par moment, c'est très gros. Le chef de la résistance s'appelle Charlie, enfin Charles Moulin. Ouais. Bon, voilà. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment un peu gros. Donc, ça m'a un peu freinée. Il y a un côté également très redondant. Je trouve que toute la première partie, avant l'accession au pouvoir de Mireille Lefacq, avec tout, voilà, ces médias qui reviennent en boucle. Alors effectivement, ça fait sens parce que il y a ce côté bourrage de crâne qui participe de l'ascension du Parti National, voilà, aka le Front National. Mais littérairement, c'est vraiment difficile. En tout cas, pour ma part, voilà, moi, j'ai eu du mal à apprécier. Et surtout, je pense que la principale difficulté de ce livre, alors apparemment, vous, Eric, c'est ce qui vous a plu, moi, c'est ce qui m'a retenu, mais c'est pas tant la faute de l'auteur, c'est que la réalité dans laquelle on est actuellement est déjà tellement outrancière qu'en faire une caricature, pour moi, c'est une sorte de mission impossible. Ou en tout cas, quand on reste comme ça dans quelque chose qui est presque de l'ordre de la paraphrase, je vois pas ce qu'il apporte à ce que l'on vit. C'est-à-dire que là, avec tout le débat qu'on a eu sur le burkini, avec les derniers mots de Ricardo Buffon, enfin en tout cas de son alter ego réel sur la Marianne de la République a le sein nu parce qu'elle nourrit les enfants de la République. Enfin, on est tellement constamment en roue libre dans le débat politique actuel que il est presque en deçà de la réalité. Enfin voilà, et de cette matière peu ragoûtante, je trouve pas qu'il en fasse grand-chose. Alors certes, il part très loin ensuite, après l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, on bascule vraiment dans une réalité horrifique, mais qui n'est jamais que la... Comment dire, il plaque ce qui s'est passé pendant la Seconde Absolument, Guerre mondiale, pendant le régime de Vichy. Donc, il en fait pas grand-chose. Et avec une thématique similaire, moi, sans avoir aimé particulièrement Soumission de Houellebecq, mais on va pas refaire le débat à Houellebecq, mais je trouve qu'à la limite, il faisait quelque chose de plus intéressant, qu'on aime ou pas, mais c'était plus intéressant. Là, j'ai pas accroché, mais peut-être parce que ce qu'on vit actuellement est trop outrancier pour qu'on en fasse quoi que ce soit littérairement.
Mais on parlait de leur rôle tout à l'heure dans le petit salon. Moi, je vais pas me faire un ou une amie, mais il me semble qu'il y a un manque d'éditeurs sur ce livre-là, qui est quand même un gros pavé. Vous évoquez Soumission, sur lequel j'ai émis ici les très nombreuses réserves que j'ai, mais en tout cas, le volume n'était pas très épais. Celui-là, les quand même. J'ai d'ailleurs oublié chez moi, parce que j'avais sans doute pas envie de le mettre dans mon sac pour venir jusqu'ici. Il me semble qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de choses à resserrer et voir effectivement sur ces alias, AK, etc., qui m'ont pas amusé très longtemps, mais Eric Loret est en train de feuilleter son livre pour trouver les pages qui vont nous dire qu'on est peut-être passé à côté. Moi, j'y reconnais effectivement les qualités de prise avec le réel, et c'est assez judicieux et même une bonne chose que des écrivains s'emparent de l'extrême contemporain au risque, mais je l'ai ressenti comme vous, Elisabeth Philippe, d'être débordé et dépassé par le réel lui-même. C'est toujours le danger. Eric Loret.
Sur les alias, c'est vrai qu'ils peuvent être un petit peu éprouvants par moment. Je me suis posé la question, j'imagine qu'elle est purement juridique, puisqu'il y a un autre livre qui imagine l'accession de Marine Le Pen au pouvoir, qui est celui de Gérard Mordillat, qui s'appelle Moi Présidente, où évidemment le nom n'est jamais cité. Donc là, on imagine bien que c'est pour la même raison que tous ces calembours viennent.
Oui, non, bien sûr.
Ce sont des masques, donc finalement, on ne peut pas les appeler par leur nom. Sur sur votre critique, c'est assez interpellante, parce que lorsque, en 2007, il y avait eu ce collectif cofondé par Amélal, entre autres, qui s'appelait Qui fait la France, et donc des nouvelles, il y avait eu exactement la même critique, c'est-à-dire ces gens-là sont dépassés par le réel, et stylistiquement, ça vaut quand même pas tripette, en gros. Donc je trouve ça assez intéressant, parce que bon... on va dire que l'intérêt du texte, c'est précisément que ce soit un Français d'origine maghrébine qui nous raconte ce que lui seul peut nous raconter, ce qu'un auteur bien né qui va, comme il l'explique, dans les dîners, n'est-ce pas, parce que les pauvres, eux, doivent se contenter d'une bouffe entre copains. Je sais, c'est un peu bourdieusien, mais enfin, c'est pas complètement faux. Qu'on puisse entendre cette voix, mais alors ce que je trouve étonnant, c'est qu'on puisse pas l'entendre sans dire que c'est mal écrit, alors qu'il y a des milliers de livres qui sont très mal écrits, qu'on trouve formidables par ailleurs, bon, pas ceux qu'on traite ici. Donc, je reste un peu, non, je dis pas, effectivement, c'est du roman, on va dire, populaire, en tout cas. Et comme vous l'avez dit, il y a peut-être le côté un peu agaçant.
Mais on le dit pour Karim Amelal, comme on le dit pour tous les autres livres dont on parle ici, hein. Il n'y a pas de distinction en particulier
en plus,
à faire.
Il y a des pages très écrites. Il y a des pages très écrites, notamment les premières, vous les avez citées, mais c'est plus, oui, c'est ce que Arnaud disait, je pense qu'il y a plus un problème d'édition, de redondance, de redite, c'est pas tant le style, à la limite, c'est presque plus de l'ordre de la structure.
Oui, enfin, c'est une critique qu'on peut entendre, qu'on peut faire à plein d'ouvrages.
Mais qu'on fait aussi.
Tout à fait.
Qu'on fait aux autres ouvrages, ici, Eric.
Tout à fait, d'accord. C'est une satire aussi. Alors, effectivement, il y a peut-être le côté énorme qui peut agacer, grotesque. Je suis assez d'accord avec vous, quoi. On va dire que ce qui n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire l'accession de Marine Le Pen au pouvoir, est un peu moins vraisemblable ou peut-être un peu moins intéressant que la description politique de la situation actuelle. Mais quand même, il me semble que entendre ce que un Français qui est pas islamiste, qui est pas qui est de culture musulmane entre guillemets, pas tellement, simplement ses parents, ont été élevés dans cette culture, lui, il a oublié, c'est la troisième génération, peut ressentir de haine, d'embarras, de pas savoir dans quelle position se mettre, c'est quand même quelque chose que peut pas nous raconter quelqu'un d'autre, en fait.
Mais on est d'accord là-dessus.
Malgré tout, voilà.
Vous nous faites un drôle de procès, là, Eric.
Mais
Doré.
Non, je...
si.
Donc il y a ce côté-là, effectivement, qui est bien traité. Je sais pas tout l'aspect politique, quand même, c'est extrêmement détaillé. Là, on va dire pas la bassesse, c'est pas exact. Effectivement, vous avez raison de tiquer si on parle peut-être de soldats en Berlin, mais le côté amorphe, voilà. C'est-à-dire qu'on est, il fait aussi une description de notre déni actuel. C'est une conversation que tout le monde aujourd'hui a avec tous ses potes, c'est-à-dire on se dit bon bah finalement et si elle arrivait au pouvoir, ben non elle arrivera pas, et si on se militarisait encore plus, oui mais enfin non on va oublier, c'est ça. Donc il y a quand même, il met à jour, je pense, voilà, quand je parle des
Crochot, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais.
Mais c'est un des rares livres de la rentrée, en fait, parce que même traité par d'autres, vous avez tout à fait raison de citer Miano, où il y a Karine Tuil qui s'occupe de ces questions là aussi, ça me semble moins, peut-être il a ses défauts, moins dans le vif et moins coup de poing. Alors effectivement, on peut ne pas aimer se prendre des lattes dans la gueule, moi-même.
Non, mais le coup de poing,
ça me plaît pas trop.
Aurait gagné à être plus resserré.
Ouais.
Plus percutant.
Ouais. Et pourtant, moi, je suis difficile, je l'ai lu comme...
C'est vrai que vous êtes difficile. Hein. Ah, Elisabeth, un dernier mot.
Non, simplement pour parler de ce télescopage entre la lecture de ce livre et la réalité, je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Je le lisais pendant la journée de canicule, dernièrement, fenêtre ouverte.
Des 40 dernières journées de canicule.
En tout cas, bref, fenêtre ouverte. Et puis, donc, j'entendais les bruits de la cour de l'immeuble et tout d'un coup, j'entends un cri retentir dans l'immeuble. Ah non, pas de musique arabe, ça suffit. Alors là, je me disais, c'est pas vrai, je suis en plein dans le livre.
Bon, vous nous avez fait un drôle de procès, mais on a dit des choses comme sur Bleu, Blanc, Noir de Karim Amel à l'aube, comme on en dit sur d'autres romans, en reconnaissant le mérite de son existence à bien des égards, Eric Loret. Donc on l'invite, nos éditrices et auditeurs, à se faire une opinion par eux-mêmes. Avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, en commençant, Lucille Como, pour un rappel sur le jeu d'hier au soir, pour en connaître la réponse tout de même.
La question était: Christo et Jeanne-Claude travaillaient en couple depuis la fin des années 50. En ce moment, une autre exposition en France met à l'honneur un couple d'artistes tout aussi indissociables. Qui sont-ils? Et la réponse était Anne et Patrick Poirier.
Ils sont merveilleux. À gagner ce soir des DVD du film Eva ne dort pas de Pablo Agüero, distribué par Pyramide. Quelle est la question, Lucille?
En 1996, Madonna interprétait Eva Perón dans Evita, un film d'Alan Parker, rôle dans lequel elle fut acclamée. Pourtant, ce n'était pas le premier choix du réalisateur. Quelle actrice était pressentie?
Et votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Philippe, Lucille Como, Eric Loré, d'y avoir préparé avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de cette émission, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Lucille Como, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Pierre Montaille, la réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Je serai en compagnie d'Anna Segalevitch et Fabienne Pascot. À notre affiche, Victor de Pina Bausch au Théâtre du Châtelet, dans la programmation du Théâtre de la Ville. Et puis, le voyage en Uruguay de Clément Hervieux-Léger, dans une mise en scène de Daniel San Pedro, c'est au Lucernaire. Nous passerons un coup de fil à Catherine Bizouarn, la directrice de la Halle au Grain, scène nationale de Blois. Tout ça, c'est pour lundi. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Nouveau rendez-vous, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.